Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial. Nous rendons hommage à L'Écrou, une maison d'édition de poésie québécoise qui, le 1er février dernier, a annoncé qu'elle fermerait bientôt ses portes. Mon équipe et moi avons voulu leur rendre hommage en présentant 6 recueils de poésie qui nous ont touchés, des œuvres marquantes de cette collection. Vous écoutez le balado Forêt Blanche. Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir une tablée extraordinaire avec 5 collaborateurs et collaboratrices. J'ai nommé Mathilde Côté, Philippe Doucet, Juliette Chevalier, Iba Benchekroun, Olivier Hamel et moi-même, Étienne Robidou. Bonjour équipe!
Bonjour!
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 Bonjour, notre équipe est presque complète. Il manque juste Pascal Vaillancourt qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Malheureusement, donc aujourd'hui, c'est une édition tout à fait spéciale. Bon, là, on est quand même, on se réjouit, mais on est en deuil quand même, parce que le 1er février dernier, les éditions de poésie de L'Écrou ont annoncé qu'elles fermaient leurs portes, ou plutôt leurs livres. Et cette maison d'édition incarnait le renouveau dans la poésie québécoise depuis 12 ans. Maintenant, ça a été fondé en 2009 par les poètes Jean-Sébastien Larouche et Carl Bessette. Et L'Écrou s'est appliqué pendant ces 12 ans-là à mettre de l'avant de jeunes auteurs et de jeunes autrices avec une poésie qu'on pourrait qualifier de farouche, d'irrévérencieuse, d'éclatée, hors norme, avec des recueils qui étaient beaux et touchants. Personnellement, c'est vraiment... les éditions de L'Écrou, ce sont les éditions qui m'ont permis de découvrir la poésie québécoise contemporaine. Donc, on a voulu leur rendre hommage aujourd'hui. Alors, très rapidement, on va parcourir les recueils Bleu sexe, les gorilles de Jean-Christophe Réel, La révolution permanente de Sean Cotton, Là où fut le monde en lumière de Rose Elisséry, Une sorte de lumière spéciale de Maud Veilleux, Je suis célèbre dans le noir de Frédéric Dumont, et finalement, Toutou Tango de Baron Marc-André Lévesque. Alors, je me tourne vers Mathilde. Mathilde, commençons avec toi. Bleu sexe, les gorilles, publié en 2014, ça a été écrit par Jean-Christophe Réel. C'est un poète quand même assez connu là, depuis les dernières années. Il est né à Montréal, mais parle beaucoup de Repentigny. J'ai pas pu trouver s'il habitait là-bas, mais bon, si vous savez où habite Jean-Christophe Réel, écrivez-nous. Alors, il a écrit plusieurs autres livres, des recueils de poésie comme « Les volcans sentent la coconut » chez Del Busso en 2016, « La fatigue des fruits » chez Loi de Cravant, « La douleur du verre d'eau » aux éditions de L'Écrou en 2018 et « Peigner le feu » en 2019. Il a aussi écrit « Le roman, ce qu'on respire sur Tatooine » publié en 2018. Alors, Mathilde, nous t'écoutons pour « Bleu sexe, les gorilles » de Jean-Christophe Réel. Qu'as-tu à nous dire sur ce beau recueil?
Oui, donc j'ai eu la chance de lire ce recueil d'un jeune auteur, comme tu as dit, qui nous avoue dès le départ qu'il y a une relation un peu trouble avec cette réédition-là de son recueil chez L'Écrou, qu'il considère comme ses d'anglais. Je dois dire que ça m'a un peu intriguée, un peu saisie au début de ma lecture, donc je trouvais ça important de le mentionner dès le départ, mais je n'ai pas du tout été déçue par peut-être la maladresse que Jean-Christophe Réel percevait de son œuvre. Je trouve qu'on se fait tout de suite emporter par son écriture qui est très colorée, déjà comme nous l'indique le titre. Il y a beaucoup de couleurs, puis c'est un recueil qui fait du bien, en tout cas. Moi, je trouve que je me sentais réconfortée en le lisant, même si on ressent toujours comme une sorte de mélancolie dans ses mots. Réel a vraiment une grande attention aux détails. Il nous parle d'objets du quotidien qui sont très banals. Il nous fait vraiment une lecture du quotidien. On a quasiment l'impression de regarder la routine au microscope. Donc, c'est vraiment ça, on se sent tout petit, mais comme je disais, d'une manière un peu rassurante de savoir qu'on est tous dans le même bateau et qu'on vit tous les mêmes choses, comme si nos problèmes valaient pas grand-chose quand on pense à la grandeur de l'univers, évidemment. Donc, c'est ça. Il nous parle de crème de tendinite, de verre de contact séché. Ces choses-là qui sont pas très poétiques, auxquelles on porte pas vraiment d'attention dans notre vie de tous les jours, et que c'est ce qu'on oublie dans le fond à force de les voir, ben réel les esthétise et justement nous les fait voir, en rend vraiment compte. C'est ça. On peut aussi observer un rapport très fort entre la nature et l'humain que moi j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Il associe beaucoup le corps et la sexualité, donc je trouvais ça quand même très intéressant dans ses mots.
Ah oui, le corps et la sexualité,
Oui, quand même.
c'est-à-dire.
Ben, il va souvent parler de, c'est ça, différents éléments de la nature qui relient. On ressent vraiment un désir de simplifier, je trouve, nos existences, une sorte de retour aux sources, d'écouter ses envies, puis un peu de pas trop se compliquer, c'est ça, la vie avec diverses préoccupations, parce que on ressent aussi une sorte de critique peut-être un peu subtile, sous-jacente, du traditionnel métro, boulot, dodo, si je peux dire. Donc c'est ça, je trouve qu'il partit beaucoup, il nous encourage en fait à retourner à notre état sauvage, entre guillemets.
Ah oui.
Et voilà, on ressent aussi un décalage par contre avec la nature qui existe sans réfléchir, et justement nos habitudes et peut-être nos créations. Il va nous parler des ciels de plâtre, des rivières de clôture, du vent qui se cherche une place de parking. Donc c'est comme appliquer des délimitations à ce qui est infini et libre. Donc je trouvais ça quand même très intéressant comme image et très éloquent.
Eh bien, Jean-Christophe Réel, oui, ben tu parlais du quotidien. Jean-Christophe Réel, justement, parle du quotidien dans ses poèmes qui reviennent à toutes les semaines au devoir. Ça m'a fait penser à ça. Si vous voulez aller les lire, chers auditeurs, auditrices, c'est très bon. Je me tourne vers Philippe, qui est à l'autre bout de la table. Bonjour, Philippe, une table virtuelle, bien sûr.
Bonjour.
Bonjour Philippe. Alors aujourd'hui, tu nous parles de la révolution permanente de Sean Cotton. Sean Cotton, qui est né à Montréal, il a écrit trois recueils de poésie, donc c'est son troisième, oui, dis-je bien. Donc après Jonquière LSD en 2010 et Les armes à penser en 2012, celui-là publié chez Lois de Cravant en 2020. Alors, la révolution permanente, c'est intriguant parce que la révolution permanente, c'est un mot d'ordre lancé par Karl Marx, le célèbre philosophe politique allemand du 19e siècle. Et puis, je me suis demandé, est-ce qu'il y a un lien avec le communisme?
Eh bien, c'est ce qu'on pourrait croire, hein, avec la couverture, mais finalement, justement, moi, je pensais à la révolte, à la résistance politique, tout ça, mais finalement, le mot révolution fait plus référence justement à ce mouvement de rotation, comme celui de la Terre, hein, qui tourne sur elle-même d'une façon périodique, qui donne le jour, la nuit, mais aussi les saisons, l'hiver, l'été. Dans cette révolution-là, il y a justement cette idée de continuité, de continuel recommencement, et c'est un peu ce que le permanent, je pense, vient souligner, vient appuyer en soulignant justement cette espèce de fatalité où on ne sort pas de cette révolution-là. Je vous parle du titre parce qu'il est très évocateur pour le reste des poèmes qui sont à l'intérieur du recueil. On fait constamment référence au jour, à la nuit, au matin, le début du soir, la fin du soir. Je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça extrêmement, extrêmement beau. J'ai aimé le vocabulaire utilisé. Et on sent vraiment justement que le narrateur, le temps lui file sous les doigts et qu'il va tenter de le rattraper. Il se sent vraiment impuissant. Je vais vous lire un simple extrait.
Oui, bien sûr.
Et les saisons sont comme des caresses similaires sur ce petit cerf que j'ai de gelé dans les yeux. Timex stripé au poignet frémissant que j'oublie quand j'avance vers le restaurant. Alors, vous voyez, là, c'est présent la nature, les saisons, et il va tenter pour justement rattraper ce temps-là, il va tenter de le figer par le froid. Le froid est présent, la neige, l'hiver est présent tout au long du recueil aussi. Le recueil de mon édition, elle est bleue, un bleu pâle qui fait renaître justement cette idée du froid, de la glace. Vous savez, on place les aliments dans le réfrigérateur pour tenter de les conserver. Il va essayer de conserver à cette manière-là son amour qui est un peu épuisé. Alors, c'est ce qui revient tout au long du recueil, le froid, pour essayer de conserver ses souvenirs, un amour peut-être un peu vieilli, un peu dépassé. Et bref, c'est un recueil que j'ai beaucoup apprécié et que je recommande à tous.
Eh bien, que de bons mots, Philippe, pour la révolution permanente de Sean Cotton. C'est drôle parce que tu lisais un extrait de poème avec le mot caresse et justement, j'étais en train de caresser mon chat qui est présentement sur ma table. Alors, c'est dit, c'est dit. Juliette Chevalier, tu viens nous parler de Là où fuit le monde en lumière. Un recueil de poésie qui, moi, m'a touché beaucoup. Ça a été publié en 2017. Donc, Rose et Lycéries, c'est son deuxième recueil. Il avait écrit en 2011 Hommes et chiens confondus. La Montréalaise a remporté, pour Hommes et chiens confondus, le prix Félix Leclerc de la poésie en 2013. Alors, j'ai bien hâte de t'entendre, Juliette, nous en parler.
Moi aussi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce recueil-là. Il m'a beaucoup touchée. Là où fuit le monde en lumière, c'est une sorte de lettre d'amour à l'heure où le monde prend fin. C'est un éloge à ce qu'il reste du sentiment de grandeur quand la soirée tire à sa fin. C'est une sorte de poésie de la chute, une poésie de la perte qui caractérise d'ailleurs notre siècle et l'époque contemporaine. Donc, c'est vraiment quelque chose avec lequel on peut raisonner. C'est aussi une poésie qui met en valeur tous les détails sont encore porteurs de sens, donc c'est une tentative désespérée de s'accrocher à ce qu'il reste. Dans sa poésie, la caresse d'une main sur une joue, boire du vin entre amis dans un parc, tout ça devient des trésors. C'est une poésie qui entremêle les sens, qui est ponctuée d'images surprenantes, mais en même temps incroyablement naturelles. C'est des images neuves qui s'éloignent des clichés, mais en même temps familiers. C'est comme si on peut s'y reconnaître puis en être réconforté autant qu'en être ébranlé. C'est une poésie vraiment peuplée d'images fortes, délicates. Bref, c'est la plume de Rose Élisséry est magnifique. Lire ce recueil-là, c'est se plonger dans un lexique du ciel, de l'hiver, de la ville, du béton, de l'asphalte, de la lumière, du corps, de la nature et des sens. C'est un univers dans lequel on peut entendre le fleurissement des étoiles, avaler l'orage et goûter la lumière entre les branches. Toutes ces images-là, bien entendu, je les sors directement de Là où fuit le monde en lumière. J'avais prévu vous lire aujourd'hui le poème que je trouvais le plus représentatif du recueil. Donc, quand j'ai fait ma première lecture, j'ai annoté d'une petite étoile dans le coin des pages les poèmes qui m'avaient le plus touchée. Après ça, de jour en jour, je le refeuilletais à la recherche de mes poèmes préférés. J'en découvrais toujours un nouveau. Donc, au fil des jours, les étoiles se sont multipliées dans ce livre-là pour moi. Et je dois vous avouer qu'aujourd'hui, toutes mes pages de ce recueil-là sont annotées d'une petite étoile. Donc, ça a été extrêmement difficile de choisir lequel vous lire.
Donc, tu l'as lu plusieurs fois?
Oui, vraiment. Je l'ai refeuilleté et à chaque fois que je le relisais, je retombais dans un autre poème qu'au début, j'avais pas pris le temps de regarder autant. Et ça m'appelait énormément. Donc, je vais vous lire un des milliers de poèmes que j'ai appréciés de Rose Élisséry.
Avec plaisir.
Pour toi, à présent, je retiens les cheveux du soleil, creuse l'exact lit de ta présence dans la moelle des heures. Et si la terre nous abandonne, si le craquement des astres nous parvient de nouveau, si le soir se déchire crépusculaire de sang, je t'attendrai dans les débris de la fête, là où fuit le monde en lumière.
Ah, oh, c'est beau, c'est beau.
C'est vraiment beau, hein? Je pense sincèrement que là où fuit le monde en lumière a le potentiel de toucher vraiment chaque personne, que ça soit juste un poème qui parle à quelqu'un ou bien comme moi, le recueil en entier. Donc, c'est ça, je pense vraiment que ça peut plaire à tout le monde ou à quiconque.
Ah, merci, merci beaucoup, Juliette. Tous ces livres-là, ça nous donne envie de les lire. Et j'espère que ça va être le cas pour vous qui nous écoutez. Iba, nous sommes rendus à toi pour un livre dont on a beaucoup entendu parler, hein? une sorte de lumière spéciale, écrit par Maude Veilleux. Ça a été publié en 2019. Maude Veilleux est né en Beauce, dans la région de Chaudière-Appalaches. Il a écrit deux autres recueils de poésie. Donc, hein, le titre assez évocateur, « Les choses de l'amour à marde » de L'Écrou en 2013 et Lascar les Murennes en 2016, toujours chez L'Écrou. Elle a écrit également deux romans chez les éditions Hamac, « Le vertige des insectes » en 2013 et Prague en 2016. Iba, qu'est-ce que tu as à nous dire sur une sorte de lumière spéciale?
Oui, ben, ce recueil de poésie, moi, personnellement, j'allais beaucoup aimer. Je l'ai trouvé super, super, super touchant parce que la poétesse, en fait, elle nous parle un peu de son histoire, elle parle un peu des conditions de vie, de la vie en général, je dirais un peu difficile, un peu déplorable en Beauce, dans la région de la Beauce, une région qu'on penserait pas si difficile comme à vivre, mais plutôt, elle vient vraiment comme faire sortir qu'est-ce qu'on ne serait peut-être pas, donc vraiment la vie du milieu pauvre, des gens qui n'ont pas nécessairement les revenus adéquats pour pouvoir de vivre de façon aisée, de façon confortable. Donc, c'est une écriture vraiment qui essaie de remédier à sa façon à ses conditions de vie. Donc, c'est comme, pour elle, cette écriture, c'est un peu sa façon de parler, d'enfin prendre la parole pour enfin s'attaquer à cette condition, puis enfin s'attaquer à la situation, puis enfin faire en sorte de la retourner, puis faire en sorte que ça change enfin. On pouvait vraiment lire à travers le poème une certaine frustration que les choses restent comme ça, puis qu'ils ne changent pas, puis que d'époque en époque, les choses finalement restent toujours les mêmes.
Mais comme un propos politique, on pourrait dire, ou...
Oui, un peu. On parlait quand même pas mal de politique. Okay. En fait, la politique, je la lisais surtout au début. Plus le poème avançait et plus j'avais l'impression que ça venait comme se dissiper. Mais oui, un peu. Je dirais un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Okay. Et sinon, je dirais que cette révolte, un peu cette frustration, je la lisais un peu à travers même la forme du poème. C'est-à-dire que le poème avait beaucoup de marques de l'anglais. L'anglais et le français vraiment se venaient se mélanger. Il y a un flou entre les deux. Par cet anglais-là, moi, je lisais beaucoup vraiment la révolte finalement, la suprématie des géants finalement qu'on représente par le monde anglais, par le monde de ceux souvent qui sont toujours en haute société, ceux souvent qui sont en pouvoir. Sinon, on lisait aussi un certain désordre au niveau de la forme, mais j'ai l'impression que c'était voulu, comme si finalement c'était une maladresse, comme une maladresse que l'auteur, ben, la poétesse essaie de mettre en place pour illustrer finalement la misère que les gens ont à prendre la parole, la gêne que ça engendre, le fait que les gens ne veulent pas le faire. Sinon, je lisais aussi une écriture de l'indicible. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est okay. Que c'est une écriture finalement de c'est comme si la poétesse essaie de parler de son milieu de vie, de son expérience de vie là-bas, mais en même temps, c'est comme si les mots ne suffisaient pas à venir tout parler de tout ce qu'elle vit, toute son expérience sensible. Et sinon, je lisais aussi beaucoup l'idée du lendemain comme espoir que les choses changent enfin, puis qu'on passe enfin à autre chose. Donc voilà.
Ah, mais c'est une belle note finale, j'aime ça. Iba, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le dernier collaborateur, Olivier Hamel, tu viens nous parler de « Je suis célèbre dans le noir » de Frédéric Dumont, publié en 2019. Ça, c'est un recueil que je trouve mystérieux. Il y a comme un aura de mystère. Hein? La pochette est noire et il faut savoir aussi que les recueils de poésie de L'Écrou sont très colorés. Et lui, je pense que... En tout cas, il y en a quelques-uns noirs. Mais c'est ça, il y a un aura de mystère. Il a écrit en 2009, édition événement miteux, aux éditions de ta mère, et Volière, chez L'Écrou, en 2012. Olivier, nous t'écoutons.
Oui, donc Étienne, j'aime bien que tu parles justement de cette couleur noire du recueil parce que il vient vraiment étrangement mettre en lumière le contenu du recueil, c'est-à-dire l'idée de l'hôpital psychiatrique en fait, donc qui est omniprésente, qui est une idée sombre en quelque sorte puisqu'il est intimement lié à la folie. Et l'hôpital psychiatrique agit un peu comme pierre angulaire dans le recueil, dans la mesure où c'est à la fois le passé, donc c'est une voix narrative qui, une voix narratrice, pardon, qui ressort de l'hôpital psychiatrique. Et en même temps, l'hôpital psychiatrique, c'est aussi le futur, parce qu'on sent que c'est un peu comme une épée de Damoclès qui pend dans les poèmes et qui mène inexorablement vers un retour à l'hôpital psychiatrique. Et là, parler de la folie, tout ça, on peut sentir que ça va être un sujet lourd.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Mais au contraire, en fait, au contraire, parce que cette folie-là, en fait, ce personnage, si je peux m'exprimer ainsi, qui est atteint de cette folie-là, en fait, c'est probablement le personnage le plus sain qui existe. Et c'est nous, lecteurs, qui sommes peut-être fous de ne pas voir que l'on vit dans un monde d'aliénation. Ce que j'ai retenu du livre, principalement, en fait, justement, c'est pas ce côté sombre, ce côté lourd dans le sujet qui est abordé, c'est le style d'écriture qui emprunte, en fait, d'une belle naïveté, une naïveté pour aborder cette désillusion-là et une naïveté qui permet de voir la lumière dans ce monde sombre. C'est ce qui m'amène à vous partager, en fait, un des poèmes présents dans le recueil qui parle un peu de cette naïveté. Donc, je vous lis. Au fond, je suis naïf et assis sur un siège dépourvu de cinéma. La vitesse apparaît, la vitesse disparaît. C'est un jeu, une infestation et un jeu. Il faut avoir toute sa tête pour tuer toute sa tête.
C'est beau. C'est beau, mais c'est poignant, là.
C'est beau, c'est poignant. Le recueil est un petit peu tout comme ça, et c'est un recueil qu'il faut lire plusieurs fois en fait. Donc, un peu comme Juliette le disait, qui a reparcouru son recueil, c'est un recueil de poésie qui peut nous apparaître parfois justement lourd à première lecture, mais à force de le relire, on en découvre des différents sens. On découvre la beauté qui se cache dans ce style d'écriture un peu en confetti, qui apporte une certaine liberté du langage. Donc, je vais vous. C'est ce que j'ai à dire sur ce recueil. Je terminerai avec deux vers qui m'ont bien plu
Oui, bien sûr.
aussi. Donc, c'est Il y a dans la vie un seul chemin et il mène en psychiatrie.
Boboy.
Chaque phrase parle et meurt seule. Donc, c'est vraiment cette idée que le langage, en fait, est une aliénation et qu'il faut s'en libérer finalement pour être capable de revoir la lumière dans le monde.
Wow, écoute, c'était tout. Ouais, hein? Ça donne le goût. Ça donne le goût. Écoute, tu parlais d'aliénation. Ça m'a fait penser à notre précédent épisode de balado sur Guérir du mal de l'infini, l'essai d'Yves Marie Abraham. Ça m'a fait penser à ça. Vous aurez écouté notre épisode, bien sûr. Et tu parlais de folie et tout ça. Et puis, mon chat s'est mis à courir dans tous les sens, à grimper. J'ai peur qu'il. Il faisait plein de bruit. Bref, mon chat est en symbiose avec nos propos, faut croire. Alors écoute, les éditions de l'Écrou, c'est très très varié. Il y a toute une palette de couleurs. Et la preuve, c'est que mon recueil est complètement, mais alors là, complètement différent. Je l'ai gardé pour le dessert. C'est Toutou Tango de Baron Marc-André Lévesque. Donc, Baron Marc-André Lévesque, c'est un baron autoproclamé. Il y en a qui pourraient penser que c'est un peu pompeux là, comme titre et prétentieux. Non, 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 non. Vraiment, très loin de là, c'est plutôt un titre honorifique d'autodérision. Le baron est né à Ottawa, capitale du pays du Canada. Donc, Toutou Tango a été publié en 2017. Il a écrit trois autres recueil de poésie, donc Chasse aux licornes en 2015 chez L'Écrou, J'ai appris ça au cirque, À la courte échelle pour les enfants en 2020, et Verdun Land avec Timothée William Lapointe aux éditions de Ta mère en 2020. Alors, que dire de Toutou Tango? Toutou Tango, et je l'ai relu avec grand plaisir et j'ai autant ri que la première fois quand je l'avais lu en 2017. Et ça, ce recueil-là, moi je dis, c'est pour les gens qui disent Oh, oui, moi, tu sais, la poésie, c'est pas vraiment mon fort, là, je comprends rien. Ça, là, si vous vous dites ça à la maison, lisez ce recueil-là, c'est une véritable doudou de lecture. C'est drôle, c'est coloré, c'est la fête, l'enfance, la folie. Il y a le lexique du dessert aussi, c'est décadent. La sonorité, le rythme aussi est formidable. C'est vraiment un recueil à lire à voix haute. J'aimerais vous en lire un extrait, tiens, pour hein, vous mettre un peu dans le bain. Alors, ça s'appelle La Marche de l'Empereur, c'est le début. Vous êtes cordialement invité à imaginer un gros gâteau scandaleux qui plane au ralenti vers votre face. Mettons que c'est la fête à quelqu'un, puis qu'ils ont loué pour l'occasion un vaisseau spatial hors de prix. Et vous êtes là, hors du monde, party animals avec vos amis. Tu sais, ça met la table à cet univers-là féerique. C'est éclaté. Le quotidien, c'est le point de départ. Il y a par exemple des batailles de hamsters qui deviennent épiques. Il va regarder sa soupe et il va penser à l'univers, à notre place dans l'univers. Mais il y a aussi un côté un petit peu moelleux, émouvant. Moi, je comparais ça au côté, tu sais, le côté fondant là, dans un brownies, là. Un brownies bien chaud et bien sucré. Ben, je comparais ça à ça. C'est ça, il y a ce côté très... qu'on retrouvait pas dans son précédent recueil, un côté touchant, émouvant, qui va... Et ça, on ne connaissait pas. On connaissait l'artifice de Baron, mais moins ce côté-là. Et je veux vous lire un deuxième extrait. Moi, personnellement, j'ai toujours des frissons en le lisant. Ça va comme suit. C'est la fin du poème. Des fois, Monique écoute par la fenêtre la livraison de pluie du samedi se déposer joviale sur les mornes camions et se marmonne à elle-même, pour elle-même, sans elle-même, qu'elle pourrait un jour apprendre le violon ou l'allemand ou l'amour, tu sais, tant qu'à être invincible. Et ça, ces paroles-là, je les trouve absolument, absolument formidables. Et je finirai comme finit le baron, ça finit de même. Écoutez, merci beaucoup à ma tablée, Olivier Hamel, Mathilde Côté, Iba Benchekroun, Juliette Chevalier, Philippe Doucet. Ça a été un grand plaisir de partager cette table virtuelle avec vous pour rendre un dernier hommage aux éditions de l'Écrou qui malheureusement vont fermer leurs portes bientôt. Ils ont tout de même annoncé leur intention de publier deux derniers titres prochainement. On va suivre ça pour vous. Suivez-nous sur Spotify ou SoundCloud et pourquoi pas, abonnez-vous. Et on se retrouve bientôt. Merci encore les collaborateurs et collaboratrices.
Merci.
Merci à toi, Étienne.
Merci.
Bye bye.
Bon, ça suffit.